EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. On est maintenant une famille, n'est-ce pas? Et on veut être une bonne famille. On veut surtout qu'on commence à être une famille à partir de là où nous sommes, d'où nous sommes nés, nos parents, nos frères et sœurs. On veut être une bonne famille où notre foi chrétienne y apporte quelque chose en tant que solution aux problèmes qui sont récurrents dans un contexte familial. C'est ce que nous sommes en train d'apprendre depuis le début de cette semaine. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un phénomène assez socialement controversé, mais bibliquement, c'est clair. C'est le phénomène de la polygamie. Les mariages polygames et leurs conséquences. Lorsqu'on se retrouve dans un contexte où une personne, un homme, se met à avoir plusieurs femmes, ce n'est jamais sans conséquences dans la vie de la famille. Ça apporte tellement de problèmes et de complications qu'il faut à partir de là résoudre le problème d'une autre manière que dans les autres types de familles. Quels sont ces problèmes? Qu'est-ce qui est à la base de cela? Comment on peut réellement résoudre des problèmes ou les conséquences des mariages polygames? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. La polygamie est une réalité au milieu des hommes. Mais la vérité, et que le plan de Dieu a toujours été que l'être humain puisse avoir une seule personne à épouser. Un homme pour une femme. C'est d'ailleurs ça le premier point que j'aimerais partager avec vous. Premièrement, le plan de Dieu, c'est une seule chair qu'il compose comment? D'une femme, d'un homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je suis en train de lire Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le plan de Dieu a toujours été de faire quitter un homme pour qu'il s'attache à sa femme et que les deux deviennent une seule chair. Une fois que tu te fusionnes à celle-là, ou à celui-là pour faire une seule chair, il n'est plus possible que tu sois détachable pour aller en fonder encore une autre chair. Matthieu chapitre 19, verset 6, la Bible dit, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair. » Alors, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Il faut se préparer bien avant. Il faut réfléchir à deux fois. Penser très bien avant de s'engager dans une relation de mariage avec une personne. Parce qu'après cet engagement, on n'a pas le droit de commencer à multiplier le même type d'engagement avec d'autres personnes. Ce n'est pas ça ce qu'enseigne la Bible. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Pourtant, j'entends bien des frères et des sœurs dire, mais dans la Bible, on trouve plein de cas de polygamie, c'est rempli de cas de polygamie. C'est alors là que je la répète, une phrase que je répète souvent aux étudiants dans les salles de classe, tout ce qui est dans la Bible n'est pas biblique. C'est vrai que quand je dis ça, les gens sont genre, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tout ce qui est dans la Bible n'est pas biblique. Ne vous méprenez pas, voilà ce que j'essaie juste de dire. J'essaie de dire ceci. Lorsque l'adjectif biblique est utilisé pour dire qu'une chose est biblique, ça signifie que c'est la chose que la Bible encourage, tente d'enseigner, tente de communiquer comme valeur à vivre. Pour parvenir à cette fin, la Bible contient des vérités telles qu'elles sont. Elle n'est pas népotique, la Bible, elle n'est pas plutôt, elle n'est pas une apologie, la Bible. Elle ne tente pas juste de dire les bons côtés des choses. La Bible exprime les faits. Et la Bible enseigne aussi par le contraire. C'est-à-dire, en montrant les erreurs d'une chose, la Bible vous enseigne à ne pas le faire. La polygamie est présentée dans la Bible et ses conséquences sont bien exprimées pour que l'on voie jusqu'à quel point ça peut être nuisible. Pas pour qu'on puisse dire, puisqu'il y a des cas de polygamie dans la Bible, c'est que nous devons tous être polygames. Pourtant, dans la Bible, on voit des frères tuer leurs frères. Alors, qu'est-ce que vous faites? Puisqu'il y a Caïn qui tue Abel, donc, tuer son frère est biblique? Non. On devrait utiliser le mot biblique pour dire, c'est ce que la Bible nous enseigne comme valeur à vivre, comme leçon à apprendre, comme bonne direction à choisir. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que c'est ça ce que la Bible nous enseigne à faire. Certaines choses sont écrites dans la Bible justement parce que la Bible veut nous apprendre que ce n'est pas ça qu'il faut faire. La polygamie en fait partie. Deuxième vérité que je veux partager avec vous, c'est que la polygamie produit jalousie et rivalité. La polygamie produit jalousie et rivalité. Dans un contexte où un homme a plusieurs femmes et de ces différentes femmes, il a plusieurs autres enfants, vous comprenez dans quel milieu on est maintenant. Ça sera rempli de jalousie entre les mères, entre les enfants. Et ce sera rempli de rivalités entre les femmes. Certaines des personnes qui m'entendent aujourd'hui, nous sommes pour la plupart nés des familles, voilà, polygames. Les parents ont eu certainement 2, 3, 4 autres femmes. On se retrouve dans une grande famille. Et ce contexte-là est rempli de rivalités, de jalousie, et c'est difficile à vivre. Je me rappellerai qu'une fois, j'étais allé dans l'un des nos villages, pour ainsi dire, dans un village qui bâtissait mon oncle, et je suis allé en vacances, et il y avait 2 maisons pour chacune des femmes, de celles qui étaient là au moins. Il y avait une maison de ce côté pour une femme, une autre en face, carrément. Les maisons se regardaient. Il y avait une même cour. Les maisons étaient face à face. Et il y avait une cour commune. Et puis, tout autour, il y avait la forêt. Donc, l'oncle dormait chez celle-là. Et puis, à un moment donné, il quittait chez celle-là. Et puis, il allait dormir chez l'autre. On pouvait sentir, nous, les enfants, si jeunes qu'on était, mais on pouvait sentir que, cette dame-là est en train de préparer aujourd'hui un mets spécial parce qu'il veut avoir l'oncle de son côté. Et ce n'est pas facile. Même quand les enfants tenteraient de se mélanger, de se mêler entre eux, de vivre comme s'ils étaient tous une même famille, à des moments particuliers pour les passations d'héritage, les avantages particuliers, chaque femme protège son enfant ou même le rappelle de temps en temps que malgré que ce sont tes frères, faut jamais oublier que vous n'êtes pas de la même mère. La polygamie a des conséquences telles que, on aurait préféré naître chacun d'une famille différente, on saurait qu'on est des amis. Vous voyez, des fois c'est plus simple. Savoir que je suis né d'un autre père et d'une autre mère, et on est des amis, on est des bons amis, on est bien. Que de naître d'un même père et des mères différentes, avoir en même temps des éléments communs, et des éléments de distinction, être en même temps ensemble sans être ensemble, être en même temps en train de poursuivre un même but tout en sachant qu'à un moment ou un autre, on est ensemble et on cessera d'être ensemble, être à la fois à l'ensemble, être à la fois en train de suivre le même but en craignant la trahison quelque part, c'est un climat invivable. Genèse chapitre 16, versets 4 à 5, la Bible dit, il alla vers Agar. Elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et depuis qu'elle voit qu'elle est enceinte, elle me regarde avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Ce passage me fait rire chaque fois que j'essaie d'imaginer Abraham, le pauvre Abraham. Abraham est en train de subir les états d'âme des femmes. La femme, elle est jalouse et la rivalité des femmes. Ouh, chaque fois que je regarde ça, je dis, oh, Père Abraham. À l'origine, c'est Saraï qui vient voir Abraham et qui lui dit, écoute, j'ai pas d'enfant. Celle-là, c'est ma servante. Je la trouve belle. Je la trouve bonne pour toi. Elle m'est fidèle. Je pense qu'à la base, la dame s'est dit, c'est parmi les plus fidèles de mes servantes. et dit, je te la donne pour que tu puisses, elle puisse avoir un enfant, elle puisse avoir un enfant à mes pieds et que je puisse avoir son enfant puisse être mon enfant. Elle a même pas encore accouché. Elle est juste devenue enceinte et commence déjà un peu à se comporter différemment. Et Sarah s'est dit, tout cela, c'est toi, Abraham. C'est toi, Abraham. Maintenant, cette fille est devenue enceinte. C'est Dieu, Dieu. Ah, il y a un Dieu au ciel. Abraham, il y a un Dieu. Il y a un Dieu au ciel qui voit dans quoi tu m'as mis, Abraham. J'imagine le pauvre Abraham en train de regarder et dit, ah, dans quoi on est là? Et à la base, elle a toujours été là, elle a toujours été ici, la servante, et en aucun jour, tu ne m'as vu aller vers elle. C'est toi qui es venu avec l'idée de pouvoir la transformer carrément en mère porteuse pour qu'elle puisse avoir un enfant pour toi. Et maintenant, c'est ma faute. Dès qu'on commence à se retrouver dans un contexte où le même père plus commence à avoir plusieurs autres femmes, la vie à l'intérieur devient difficile. On commence à craindre l'empoisonnement. On commence à craindre dans nos contextes culturels à nous, on commence à craindre des fétiches, on craint des choses, la vie devient invivable. Genèse chapitre 30 donne un bel exemple. Genèse chapitre 30, verset 1 à 2. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? N'oubliez pas, les deux textes que je viens de vous lire, à l'origine, il ne s'agit pas de polygamie. Les hommes n'ont pas eu l'intention de pouvoir épouser plusieurs femmes. C'est presque des situations de polygamie qui leur sont imposées. Abraham, c'est à la demande de Sarah qu'elle se retrouve avec Agar. Demande qui, culturellement, à l'époque, semblait être normale. Et ici, nous sommes dans le contexte de Jacob, qui, à l'origine, voulait épouser que Rachel, mais qui s'est fait avoir au moment du mariage. Il se rend compte qu'on lui a donné la grande sœur qui était Léa, parce qu'il semblerait que la culture là-bas, la petite ne se marie pas avant la grande, et on lui a demandé de se remettre à travailler pour avoir la femme qu'il voulait. Le voilà se retrouver avec celle qu'il n'avait pas prévue et celle qu'il voulait. Et Rachel, la femme pour laquelle on a travaillé 14 ans pour l'avoir, elle ne donne pas d'enfant, malgré 14 ans de travail dur. Et maintenant, la voilà qui regarde sa sœur, sa propre sœur, qui commence à avoir des enfants, et elle est jalouse. Elle va tourner vers Jacob et dit, Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. J'aimerais bien imaginer la vie de ces sœurs de même sang, les enfants d'un même père, avoir les deux un même mari, et comment elles ont vécu la rivalité. Rien que pour voir, c'était pas évident. Jacob s'est dit, est-ce que c'est moi qui t'empêche d'avoir des enfants? Lorsque vous êtes dans un contexte de famille où l'homme, le père, se retrouve avec plusieurs femmes, qu'ils vivent ensemble dans la même maison ou non, il y aura toujours de la jalousie et de la rivalité. Il y aura de l'espionnage. Le chauffeur... Tout le monde, quand il va ici, cette dame le nourrit très bien pour qu'il raconte toutes les histoires de l'autre. J'avais entendu une blague d'un monsieur qui disait, moi, en fait, quand j'ai besoin de manger, je vais voir la première femme, je lui raconte toute l'histoire de l'autre femme, et puis quand je vais chez l'autre, je lui dis que je viens de chez l'autre, elle me donne aussi. Donc moi, tu as deux femmes, trois, moi, c'est mon business, ça me permet de faire des... La polygamie amène jalousie et rivalité, et j'aimerais même exagérer ici que cette rivalité des fois des conséquences qu'on ne peut plus effacer. Troisièmement, le désordre conjugal affecte les générations. Lorsque vous êtes dans un contexte de polygamie, que vous l'ayez fait de façon officielle ou officieuse, que ce soit des femmes épousées ou des concubines, ça mène à un désordre qui va affecter des générations. Je vous parlais tout à l'heure en vous disant que certains de ma génération, peut-être d'une génération même plus que la mienne, nous avons pour la plupart chez nous, dans mon pays, hérité des familles polygames. On vient des familles polygames. Et depuis quelques dizaines, même plus d'années, on assiste au pays à des ventes, des parcelles, des propriétés, à des manières incroyables. des propriétés qui auraient pu être de source de bénédiction, de l'héritage pour d'autres générations sont spoliées parce que les héritiers ne sont pas un. Chacun vient d'une femme différente. Chaque mère a peur que ses enfants ne puissent pas hériter. On finit par en arriver au point de vendons-le et chacun va avoir sa part. Mes amis, la polygamie a des conséquences. Ce désordre-là va de génération en génération. Ce n'est pas seulement les deux femmes qui vont être rivales. Elles vont communiquer ça chez les enfants. Les enfants, s'ils ne sont pas attentifs, intègrent ça. Et le communique encore aux enfants de leurs enfants. Deux fois, comme je le disais tout à l'heure, deux fois, il est mieux encore d'être un ami à une connaissance qui est d'une autre famille que d'être son propre frère ou sa propre sœur, du même sang de père, mais des sangs de mères différentes. En roi, chapitre 11, versets 1 à 4. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, issues des nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous irez point chez elles. » Il eut 700 familles, et il eut 700 femmes, princesses et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. La Bible est en train de démontrer là où tout ça amène. Quand elle parle du nombre de femmes de Pharaon, ce n'est pas pour nous encourager, de Salomon, c'est pas pour nous encourager à en avoir. Si vous voulez vraiment lire et voir l'encouragement, voir les leçons, c'est à la fin ici. Voyez comment la fin, comment ça finit, qu'est-ce que ça amène. La Bible est en train de nous montrer un jeune homme studieux, un jeune homme respectueux, intelligent, consacré au Seigneur, qui lui demande la sagesse, qui commence sa course avec gloire. Et la Bible nous montre qu'est-ce qui cause sa chute après. C'est pour ça qu'elle nous raconte l'histoire de ces différentes femmes qu'il a. Pas pour nous dire, allez, vivez dans les vies de polygamie, pour dire, regardez ce que la polygamie amène avec le temps. Un grand désordre. C'est parce qu'il avait plusieurs femmes que David se retrouve dans des conditions d'inceste. Où un frère commence à être passionnément, j'allais dire sexuellement, érotiquement attiré par sa propre sœur, d'une autre mère, au point de planifier un viol. Et à cause de ce viol, ce qui arrive, c'est que le frère planifie un meurtre, tue son propre frère. Regardez dans quelle famille est devenu David maintenant. Ces personnes auraient pu naître d'autres parents. Ils n'allaient pas avoir la même chose. Ils n'allaient pas avoir ça comme rancune, comme problème. La polygamie a des conséquences. Elle en a déjà eu, pasteur. C'est déjà fait. Qu'est-ce que tu nous dis? Est-ce que tu es en train de me dire, tu veux juste me culpabiliser, mais montrer combien je me suis retrouvé dans une... Non, c'est pas ça le but. La quatrième chose est celle-ci. La personne polygame doit reconnaître ses fautes et se tourner vers la miséricorde de Dieu. Si finalement vous vous rendez compte que c'était un mauvais choix, que c'était une mauvaise façon de vivre, et vous vous rendez compte que c'était pas ça l'intention de Dieu, ce n'est pas ça ce que vous auriez dû faire. Il est simple. Dieu est un Dieu d'amour et rempli de miséricorde. Le Seigneur peut vous aider dans votre situation complexe dans laquelle vous êtes. Il peut vous sortir de là. Il peut vous trouver les meilleures façons de gérer ce qui se passe maintenant. Il peut vous trouver les meilleures façons maintenant que vous avez donné votre vie à Jésus. Tous ses enfants sont vôtres. Il est possible de savoir comment gérer de redresser et d'élever cette famille selon le Seigneur. Même quand à l'origine, ça a été une famille polygame. Psaume chapitre 51, versets 3 à 4. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Voilà un cœur qui se répand. Voilà un polygame qui se répand. Il dit, Dieu, pardonne mes fautes. Je ne sais pas, vous êtes devenu polygame intentionnellement ou par des conséquences, comme nous venons de l'apprendre aussi de certaines personnes dans la Bible. Je ne sais pas dans quoi vous êtes, mais une chose est sûre, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, notre regard devient rayonnons de joie. Dieu sait nous trouver des solutions que nous ne savons plus comment trouver. Mais si on y vient avec humilité et on vient avec ce sens d'abandon en disant Dieu, c'est moi qui l'ai fait. Fixé, je ne sais plus fixer. Il nous viendra au secours. Proverbe 28, verset 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. N'aie pas peur de considérer que c'est un mal parce que tu t'es dit, mais les conséquences, c'est là, le vin est déjà tiré, mais bon, pasteur, tu dis ça, bon, ouais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est bien, mais pratiquement, tu me demandes de faire quoi, mais le vin est déjà tiré. Ouais, tu dois devoir commencer par accepter que ça, ce n'était pas bien. C'est juste qu'aujourd'hui, tu justifies ça, tu trouves une façon de donner une réponse à ça. Comment tu vas vraiment désirer une aide si tu ne considères pas que tu as besoin d'aide? Mon frère, tu as besoin d'aide. Papa, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide, maintenant tu as une famille complexe à gérer. Tu as vraiment besoin d'aide. Et pour ça, il faut s'approcher du Seigneur et dire, Dieu, j'ai mal fait. Je n'ai pas marché dans les principes que tu avais prévus sur la terre et les conséquences sont là. Guide-moi, aide-moi à me redresser. Aide-moi à faire de ceci une famille qui te glorifie. La cinquième chose, la voici. Dieu peut restaurer une histoire brisée. Le Seigneur est toujours capable de corriger ce qui a été abîmé. Une histoire qui a été complètement brisée, le Seigneur peut le réparer. Peut-être que vous m'écoutez aujourd'hui, c'est vous qui vivez cette vie de polygame. Vous êtes peut-être retrouvé dans une polygamie ou parce que on vous a fait une pression en vous disant non, mais comme elle n'a pas toujours d'enfants, quand même, tu ne veux pas vivre comme ça, tu dois t'essayer quelque part. On ne sait pas, est-ce que c'est toi ou c'est elle qui a les problèmes. Écoute, essaye-toi quelque part. S'il y a un enfant, au moins, il y a un enfant. Tu te retrouves dans une vie de polygamie qui, à la base, n'était pas ton intention. Ou alors, tu l'as voulu, mais tu as cru que l'autre allait juste être une petite copine que tu cacherais. Ou peut-être pour toi, tu penses même qu'il n'y a pas de mal à ça. Peut-être que toi qui m'écoutes aujourd'hui, en fait, tu es enfant issu de polygamie. Tu es le fils, la fille de la deuxième, de la troisième, de la première. Le Seigneur regarde cette circonstance, quelle qu'elle soit. Il a la capacité de réparer ce qui est brisé dans cette histoire. Tu ne t'entends pas avec tes demi-frères, j'entends cette expression-là. Demi-frères, demi-sœurs. Vous avez déjà vu comment, je le disais tout à l'heure, combien c'est difficile. On a des problèmes difficiles à résoudre. On s'est dit, je préfère 100 fois alors avoir des problèmes avec un ami, quelqu'un qui est d'une autre famille. Aujourd'hui, quand des frères, demi, comme ils se disent, demi-frères ont des problèmes, c'est incroyable, c'est catastrophique. On a même l'impression que c'est un étranger qui vient d'une autre planète. On pardonnait encore un parfait étranger qui n'est même pas de la famille. Mais on aurait du mal à se réconcilier et à mettre carte sur table avec quelqu'un dans lequel coule le même sang dans les veines. Ne fût-ce que par le père, même si les mères ne s'entendent pour rien. Le Seigneur peut corriger cette situation. Le Seigneur peut réparer cette famille. Votre grande famille a plusieurs mères. Jésus peut en faire une bonne famille. Laissez-le entrer. Laissez Jésus prendre place. Laissez vos relations dépasser les relations de fils de telle mère, mère une, mère deux. Laissez Christ faire de vous une famille en lui. Laissez Christ devenir le père de la maison. Laissez Christ être le point de l'unité. Laissez Jésus-Christ améliorer vos relations. Ne le considère plus juste comme frère, sœur, il vient de l'autre maman. Cette maman-là ne nous aime pas. Elle nous a jamais aimés. C'est elle qui a amené tellement de problèmes dans le mariage de ma mère. Est-ce qu'on peut dépasser ça? Et c'est dire que lorsqu'il viendra et qu'on montera dans les airs, il ne nous mettra pas d'après la liste de quelle mère et de quel père. Jésus peut corriger, il peut restaurer cette relation brisée. Osée chapitre 2, verset 19, j'y arrive. La Bible dit, je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi dans la justice et dans l'équité, dans la bonté et dans la miséricorde. J'aime cette belle expression où Dieu parle à Israël, dit, tu resteras à moi, tout à moi, comme ma femme à moi. Dieu fait la promesse de rester en alliance avec nous. Belle promesse. Pour toujours. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Laissez Jésus entrer dans cette famille. Et il va la transformer comme jamais vous l'avez imaginé. Mon frère, mon père, mon grand frère, toi qui m'écoutes, laisse Jésus entrer dans cette polygamie et il va corriger. Laisse-le entrer dans ta vie et il va t'apprendre à gérer cette famille, cette vie que tu as maintenant aujourd'hui, que tu ne sais plus comment être juste, tu ne sais même plus comment te tenir, tu ne sais même plus où se trouve le milieu. C'est demandant émotionnellement, physiquement, c'est demandant. Mais si Christ est venu te sauver, si tu l'acceptes, tu le laisses te sauver, je t'assure, tu n'as pas idée de ce qu'il peut faire. Tu n'as pas idée de ce que Jésus peut faire de notre désordre. Tu n'as pas idée de ce que Jésus peut faire lorsque nous lui amenons la boue de nos vies entre ses mains. Comment il peut le transformer en chef-d'œuvre de gloire? Je ne veux même pas te faire visualiser à quoi ça peut ressembler. Tout ce que je te demande, c'est de faire confiance à Christ parce qu'il sait restaurer une histoire brisée. Tu es né d'une famille de polygames? Jésus peut améliorer ses restaurations, ses relations. Aujourd'hui, vous avez du mal à vous faire confiance. Les dames ont du mal à se faire confiance. Les enfants ont du mal à se faire confiance. Parce qu'au fond, on se dit que l'un ou l'autre tentait de prendre la position, la place. On est toujours rendu dans une petite rivalité qui ne dit pas son nom. Mais si on met Christ à la place, si on met tous ensemble les sœurs, les frères, pas pour savoir qui va avoir l'héritage, qui va pas en avoir. Quand on se rend compte que le meilleur héritage nous vient d'en haut de notre Père de Lumière, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Quand on commence à comprendre qu'on peut avoir des meilleures relations que celles du sang que nous a donné ce monsieur. En Christ, on est devenus tous frères et sœurs. Quand on donne à Jésus la place dans la maison, ça change complètement. Une toute autre histoire peut être écrite lorsque Christ prend la place. Et enfin, revenir à un mariage selon l'ordre divin. Je vous encouragerai, et je le crois que Dieu va le faire. Il va vous permettre de revenir à un mariage selon l'ordre divin. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2, la Bible dit, « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Et chacun sa femme, chaque femme son mari, chacun... Paul est en train de dire, pour lui, il considérait que dans les conditions où ils étaient, avec toutes ces tribulations, cette façon de fuir, à cause de l'évangile, il dit, ça va être dur, ceux qui sont mariés, vous allez souffrir parce qu'on va vous prendre vos femmes, on va prendre les enfants, je préfère que vous puissiez pas vous marier et rester comme moi. Mais il dit, mais toutefois pour fuir l'impudicité, au nom de Jésus, je me marie pas, et puis derrière, tu commences à commettre de l'impudicité, mariez-vous. Alors voilà, il est clair, il dit, chacun, sa femme, chaque femme, son mari. Éphésiens chapitre 5, verset 25, il avait dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Il n'a pas dit « Christ a aimé des églises, Christ a aimé l'Église au singulier, l'exemple de cette relation monogamique. » Le Seigneur peut vous ramener à l'ordre divin. Il sait comment le faire. Il peut vous permettre de corriger, de réparer ce qui est réparable et de ramener l'image divin, le modèle divin dans la famille. Oh, je vous assure, si vous tentez d'y penser, vous tentez de vous dire, pasteur, ça se fera comment? Je ne sais pas comment ça se fera. Je préfère être sincère avec vous. Je ne sais même pas comment ça va se passer. Pasteur, ça fait beaucoup d'enfants qu'on a. Je n'ai aucune idée. Mais je sais simplement que laissez Jésus à la place. Mettez-le en avant. Bâtissez les relations en Christ. Mettez Christ en avant. Quelque chose va se passer dans les conséquences de cette polygamie. Laissez-moi prier avec vous. Père, nous sommes confus. Quelqu'un m'a entendu, il est confus. Il a dit, je croyais que ces pasteurs allaient juste me dire, chasse celle-là, prends celle-là, commence par l'autre, fais ceci. On dirait que c'est beaucoup plus compliqué. Oh Dieu. Je t'en supplie. Aide quelqu'un à voir combien c'est simple et clair. Que les choses doivent rentrer dans l'ordre divin. Et que sans toi, il ne peut pas gérer toute cette nouvelle famille qu'il a maintenant. et que les relations les plus solides dépassent celles que lui, il a eues avec ses différentes femmes ou ses femmes ont eues avec lui, mais qu'il peut bâtir des relations plus saines entre ses enfants en mettant Jésus au centre. Dieu, je ne sais pas comment tu fais ça, mais je sais que tu le fais. Alors viens au secours de ses enfants et de ses parents, de ses femmes et de ses hommes qui vivent des conséquences néfastes, des mariages polygames. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et voyons-nous demain.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.